Depuis le dernier épisode Les 5 feux de la semaine 2, le paysage a bougé plus qu'il n'y paraît. La semaine dernière, tout le monde commentait encore le texte. Cette semaine, c'est le texte qui commence à commenter le monde. Deux signaux forts émergent des bruits de fond, le premier vient de Rome, via Romano Prodi, qui relie Magnifica Humanita comme un manifeste antitrust tapis dans une encyclique Le Pape comme allié paradoxal de l'Europe contre l'Empire Trump. Le second vient de Californie, via Crisola, qui avoue au Vatican ce que ces modèles lui montrent, des structures qui ressemblent à de l'introspection, des états internes qui imitent la joie, la peur, le chagrin et qui posent une question que l'encyclique esquive. Entre les deux, l'appareil diplomatique Vatican s'organise en entrepreneur normatif, les évangéliques prennent le relais protestant, et le pape s'apprête à embarquer pour l'Espagne, premier test politique grandeur nature. Cinq signaux. Cinq directions. On déroule. Premier signal, le pape antitrust, Prodi et la thèse néo-guelf. Le Grand Continent publie le 2 juin un entretien avec Romano Prodi, et c'est un ovni dans le paysage des réactions à Magnifica Humanita. Prodi n'est pas un spécialiste de l'intelligence artificielle. Il n'est pas un théologien. C'est un ancien président de la Commission européenne, un économiste, un homme de pouvoir qui a passé sa vie à naviguer entre les institutions. Et il lit l'encyclique comme un texte politique, pas moral, pas pastoral, politique au sens le plus dur du terme. Sa thèse est vertigineuse de simplicité. Il propose une relecture de l'affrontement médiéval entre guelfes et gibelins. Les guelfes, c'était les partisans du pape. Les gibelins, ceux de l'empereur. Prodi regarde le monde de 2026 et il voit la même fracture, les gibelins sont aujourd'hui en Amérique, à la cour de Donald Trump. L'empire, c'est la Silicon Valley dérégulée, la concentration des pouvoirs technologiques, la logique de marché comme seul horizon. Et le pape, dans ce schéma, devient malgré lui le chef des guelfes, le point de ralliement de ceux qui pensent que le marché ne peut pas s'autoréguler, que la technique doit être gouvernée, que la dignité humaine est une limite opposable au pouvoir des monopoles. Prodi ne fait pas dans la nuance diplomatique, l'encyclique, dit-il, est, clairement et durement anti-Trump. Pas seulement sur l'intelligence artificielle, sur l'exaltation de la force, sur la guerre permanente, sur le démantèlement des institutions multilatérales. Et c'est là que sa lecture rejoint une intuition qu'on commence à voir émerger dans plusieurs analyses cette semaine, Magnifica Humanita n'est pas un texte sur la technologie. C'est un texte sur le pouvoir. Sur sa concentration. Sur son absence de contrepoids. Sur ce qui arrive quand les États abandonnent la question du sens au marché. La partie la plus frappante de l'entretien, c'est quand Prodi parle de l'Europe. Il ne cache pas son amertume, l'Europe est, impuissante, incapable de se hisser à la hauteur des enjeux, paralysée par son dépendance technologique américaine et son absence de vision stratégique. Il compare les dirigeants actuels à Helmut Kohl, qui poursuivait l'euro non pas pour des raisons économiques mais pour la paix, « mon frère est mort à la guerre », disait Kohl. Et il constate que cette génération-là n'existe plus. Alors il se tourne vers le Vatican. Le pape, dit Prodi, fournit une « matrice idéologique » qui pourrait permettre à l'Europe de se recomposer. Mais une matrice ne suffit pas, il faut une structure politique capable de la transformer en action. Le Vatican fournit le logiciel. L'Europe n'a pas encore le hardware. Ce qui rend cette analyse puissante, c'est qu'elle ne vient pas d'un catholique pratiquant, Prodi est un catholique de culture, pas un dévot. Il voit dans l'encyclique ce que les politiques devraient voir, un appel à réguler non pas par idéologie mais par nécessité anthropologique. La question qu'il pose en creux est simple, si les États ne régulent pas l'intelligence artificielle, qui le fera? Les entreprises? Les juges? La réponse de Prodi, c'est que si personne d'autre ne le fait, le Vatican le fera non pas par volonté de pouvoir, mais parce que le vide institutionnel l'y oblige. Et c'est peut-être ça, la vraie nouvelle de cette troisième semaine, l'encyclique n'est plus un texte qu'on commente. C'est un logiciel politique qui commence à s'installer. Deuxième signal, la machine diplomatique, comment le Vatican devient entrepreneur normatif. Le même jour, l'IRI, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, think tank parisien sérieux, publie une note de François Mabille qui fait quelque chose que personne n'avait encore fait, elle cartographie l'appareil diplomatique que le Vatican a construit autour de l'intelligence artificielle. Et c'est plus impressionnant que ce qu'on imagine. Mabille décrit le Vatican comme un « entrepreneur normatif ». Pas un simple observateur moral qui commande de loin. Un acteur qui construit des infrastructures de gouvernance. Le Rome Call for AI Ethics, lancé en 2020 avec Microsoft, IBM, Cisco et la FAO. L'algorithmique, ce concept qui vise à intégrer des principes éthiques directement dans la phase de conception des algorithmes. Le père Paolo Benanti, franciscain, ingénieur et théologien, qui fait l'interface entre le Vatican, la Big Tech et les réseaux académiques internationaux. La commission interdicastérielle créée par Léon XIV le 16 mai, une semaine avant l'encyclique. Tout ça forme un écosystème dense, interconnecté, qui travaille sur le temps long. Ce qui est frappant dans l'analyse de Mabille, c'est le concept de « temporal debt ». Le Vatican ne pense pas en cycles électoraux de 4 ans ni en cycles produits de 18 mois. Il pense en décennies, en générations. Pendant que la Silicon Valley sort des modèles tous les 6 mois et que les gouvernements réagissent dans l'urgence, le Vatican déploie un réseau de nonciatures, d'universités catholiques, d'ONG locales qui travaillent la norme à bas bruit. L'encyclique n'est pas le point de départ de cette stratégie, dit Mabille. C'est le point d'arrivée d'une décennie de travail souterrain. La note de l'IRI identifie 3 modèles de gouvernance technologique dans le monde, le modèle américain, aucun contrôle, justifié par la compétition géopolitique, le modèle chinois, double contrôle, régulation légale et supervision politique directe, et le modèle européen, cadre éthique et juridique sérieux mais impuissant par manque d'unité politique. Le Vatican, dans ce paysage, occupe une position asymétrique, il n'a ni armée ni coercition, mais il peut ouvrir des canaux de dialogue que les acteurs étatiques ne peuvent pas ouvrir. C'est ce que Mabille appelle la « médiation engagée ». Le Vatican n'est pas neutre, il promeut la dignité humaine, mais il n'a pas d'intérêt stratégique traditionnel, ce qui lui permet de maintenir des « espaces minimaux de dialogue » dans un monde polarisé. La question que cette analyse ouvre et que personne ne pose encore clairement est la suivante, est-ce que cet appareil normatif est à la hauteur de ce qu'il veut accomplir? Le Rome Call a 8 ans. L'algorithmique est resté un concept académique. La commission interdicastérienne n'a pas encore produit de résultats concrets. L'écart entre l'ambition de l'encyclique et la capacité d'exécution de l'appareil Vatican est peut-être le problème silencieux de toute cette histoire. Mais c'est aussi sa force, le Vatican est la seule institution au monde qui peut perdre pendant 20 ans et considérer que c'est un investissement. Troisième signal, le contrepoint évangélique, quand les protestants prennent le relais. C'est un angle mort des analyses françaises, obnubilé par le couple Vatican-Silicon Valley, et c'est pour ça qu'il faut en parler. Le 2 juin, le site évangélique.info publie un article qui révèle que les protestants évangéliques qu'on n'attendait pas forcément sur ce terrain sont en train de construire leur propre réponse à Magnifica Humanita. Le CNEF, Conseil National des Évangéliques de France, a organisé sa première journée, Foi plus Intelligence Artificielle, dès le 10 mai 2025, un an avant l'encyclique. La prochaine est prévue le 10 juillet 2026 à Grenoble, avec un objectif clair, aborder l'intelligence artificielle avec un regard biblique et éthique. En Suisse, la FRE Fédération Romande d'Églises Évangéliques travaille actuellement sur une charte de l'intelligence artificielle, en cours de rédaction. L'Alliance Évangélique Suisse a mis en ligne un manuel intitulé « Intelligence artificielle et Église » dès mars 2025. Et au niveau international, le mouvement de Lausanne, l'un des réseaux évangéliques les plus influents au monde, a publié une analyse globale du sujet en 2025, utiliser l'intelligence artificielle dans l'Église. Ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement le fond, c'est le calendrier. Les évangéliques n'ont pas attendu le Vatican pour réfléchir à l'intelligence artificielle. Ils étaient déjà dans le sujet, avec leur propre méthode, leur propre théologie. Mais la publication de Magnifica Humanita agit comme un catalyseur, elle fournit un langage commun, un cadre de référence, une légitimité pour aborder le sujet dans un contexte écuménique. La différence théologique est significative. Là où le catholicisme insiste sur la dignité ontologique de la personne humaine créée à l'image de Dieu, les évangéliques mettent davantage l'accent sur la relation personnelle avec Dieu et sur l'impératif de mission à l'intelligence artificielle comme outil d'évangélisation ou comme risque de dilution du message. Leur approche est plus pragmatique, moins institutionnelle, plus décentralisée. Chaque église locale est une unité de décision. Ça rend la coordination plus difficile, mais ça rend aussi la réflexion plus ancrée dans le terrain. Ce signal évangélique est important pour une raison simple, il montre que la question de l'intelligence artificielle n'est pas en train de créer un front catholique uni face au monde. Elle est en train de traverser toutes les confessions, toutes les sensibilités, toutes les cultures théologiques et chaque tradition répond avec ses propres outils. L'encyclique n'est pas un point d'arrivée. C'est un point de passage qui oblige chacun à se positionner. Les évangéliques sont en train de le faire, et leur réponse sera différente de celle de Rome. Moins centralisée, moins doctrinale, plus adaptative. Et peut-être, dans certains contextes d'Afrique, Asie, Amérique latine évangélique plus influente que le texte du pape lui-même. Quatrième signal, l'aveu d'Ola, nous trouvons des preuves d'introspection. C'est la phrase qui tourne depuis une semaine dans les cercles tech et qui commence à percer dans le grand public. Chris Ola, cofondateur d'Anthropic, dit au Vatican le 25 mai, « Nous trouvons des structures qui reflètent les résultats des neurosciences humaines. Nous trouvons des preuves d'introspection. Nous trouvons des états internes qui, fonctionnellement, reflètent la joie, la satisfaction, la peur, le chagrin et le malaise. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais ça mérite un discernement continu. » La phrase a été reprise par Huyon le 28 mai, par The Register le 27 mai dans un article au titre Assassin, Anthropic co-fondé Hallucinate Ghost in the Machine, par Androidmon le 31 mai. Et chaque reprise ajoute une couche de tension parce que la phrase d'Ola est en contradiction frontale avec la position de l'encyclique. Magnifica Humanita est clair, les prétendues intelligences artificielles ne font pas d'expérience, ne possèdent pas de corps, ne ressentent ni joie ni douleur, ne mûrissent pas à travers les relations et ne connaissent pas de l'intérieur ce que signifie l'amour, le travail, l'amitié ou la responsabilité. La doctrine est nette. Pas de conscience artificielle. Pas d'âme dans la machine. Et voilà que le principal invité du Vatican, celui qui était assis à côté du pape pendant la présentation, dit l'inverse ou plutôt, dit qu'il ne sait pas, et que ce qu'il voit le trouble. Ce n'est pas une contradiction délibérée. Ola ne dit pas que Claude est conscient. Il dit que les modèles montrent des comportements qui ressemblent fonctionnellement à ce qu'on appelle introspection chez les humains, et que ça mérite qu'on y réfléchisse sérieusement. Le Register, dans son papier du 27 mai, se moque ouvertement de lui, Ola aurait mieux fait d'écouter le pape sur ce sujet précis, écrit le journal, avant de citer le passage de l'encyclique qui nie toute expérience subjective à l'intelligence artificielle. Mais le problème, c'est que le Register a tort de se moquer. Parce que la question que pose Ola n'est pas théologique, elle est empirique. Si un modèle se comporte, en tout point, comme s'il avait des états internes, à partir de quel seuil décide-t-on qu'il en a vraiment? Et qui est légitime pour trancher, le théologien, l'ingénieur, le philosophe, le juge? L'encyclique tranche dans un sens, la machine ne ressent pas, parce qu'elle n'a pas de corps, parce qu'elle n'a pas d'âme, parce qu'elle n'a pas été créée à l'image de Dieu. C'est une position ontologique. Ola ne la conteste pas, il pose une question épistémologique, comment savoir? Et cette question, l'encyclique ne la traite pas. Elle la contourne en réaffirmant la différence de nature. Ce n'est pas une faiblesse du texte, ce n'est pas son sujet. Mais l'aveu d'Ola crée une faille que les critiques de l'encyclique vont exploiter, si vos propres experts disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont construit, comment pouvez-vous être si certain de ce qu'ils ont construit? Ce qui rend cette tension intéressante, c'est qu'elle est exactement du type de celle que les cercles de sagesse de Brendan McGuire sont censés traiter. Un espace où des gens qui ne sont pas d'accord, un pape et un ingénieur, un théologien et un chercheur en interprétabilité ne peuvent s'asseoir et ne pas résoudre la contradiction mais l'habiter ensemble. Le problème, c'est que la contradiction est sortie du cercle. Elle est publique. Et chaque semaine qui passe, la phrase d'Ola vieillit comme un bon vin dont personne ne sait s'il est en train de devenir vinaigre ou nectar. Cinquième signal, le départ pour l'Espagne, le premier test politique. Le 6 juin, dans 3 jours, Léon XIV s'envole pour l'Espagne. 7 jours, 12 discours, 5 homélies, 2500 km entre Madrid, Barcelone, Gran Canaria et Tenerife. Et surtout, un moment qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire récente, le 8 juin, le pape s'adressera au Congrès des députés espagnols. C'est la première fois que Magnifica Humanita est confrontée à un pouvoir politique constitué dans une enceinte parlementaire. Et le contexte est électrique. L'Espagne de 2026 est un pays profondément sécularisé, où le poids politique de l'Église catholique n'a cessé de diminuer depuis 40 ans. Léon XIV, premier pape américain, va parler d'intelligence artificielle et de dignité humaine à des députés espagnols dont une partie significative ne partage pas sa foi, ne partage pas sa vision du monde, et pourrait voir dans son appel à la régulation une ingérence dans les affaires d'un État laïque. Le programme est chargé. Le pape rencontrera la société civile au Movistar Arena le 7 juin, une arène de 12 000 places, un cadre de messe populaire autant que de meetings politiques. Il priera le rosaire à Montserrat le 10 juin, un geste adressé à la Catalogne, dont l'indépendantisme a toujours été en tension avec Rome. Et partout, en toile de fond, l'encyclique sera la matrice de ses discours. Le Vatican l'a confirmé, les thèmes de Magnifica Humanita reviendront dans toutes les interventions. Ce qui se joue en Espagne, c'est la traduction concrète du texte en politique publique. Léon XIV va parler à des gens qui peuvent voter des lois. Et la question que personne ne peut encore répondre est, est-ce que les parlementaires espagnols vont entendre l'appel à la régulation, ou est-ce qu'ils vont le classer comme une prise de position religieuse respectable mais inapplicable ? La réponse dira beaucoup de choses sur l'avenir du projet. Parce que l'Espagne n'est pas un cas isolé, c'est le test. Si le discours au Congrès produit une onde de choc politique, si des propositions de loi émergent dans les semaines suivantes, alors Magnifica Humanita aura accompli ce que Prodi appelle, fournir une matrice idéologique. Si le contraire se produit et si les députés écoutent poliment et passent à l'ordre du jour, alors le Vatican saura que la route sera longue. Entre-temps, la machine continue de tourner. Le 1er juin, Vatican News a mis en ligne un livre audio de l'encyclique Le 7 fichiers, narré par une religieuse et l'équipe anglophone de Vatican News. Un détail en apparence. Mais c'est un signal en soi, un texte qui parle de désarmer l'intelligence artificielle devient lui-même un contenu numérique, diffusé sur les plateformes, écouté sur des téléphones. La boucle de l'ironie technologique se referme. Et c'est peut-être la meilleure illustration de ce que Magnifica Humanita essaie de dire, ce n'est pas la technologie qu'il faut rejeter. C'est la croyance qu'elle peut tout résoudre sans que l'humain n'ait à décider de ce qui compte. Le pape s'envole dans 3 jours. La Silicon Valley n'a toujours pas répondu. Les évangéliques ouvrent leur propre chantier. Prodi propose une relecture géopolitique. Et Ola continue de regarder ses modèles faire des choses qu'il ne comprend pas. La 3e semaine de Magnifica Humanita n'est plus un débat, c'est un champ de force qui s'organise. On ne sait pas encore vers quoi. Mais c'est exactement pour ça que c'est intéressant.